Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jenny nous écoute au Québec. Elle souhaitait entendre une émission sur l'impératrice Catherine II de Russie. Franck Ferrand va lui donner satisfaction dans les minutes qui viennent. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Chères auditrices et chers auditeurs, vos désirs sont des ordres, la preuve. Pour évoquer la grande Catherine, j'ai convié un prince russe à nous rejoindre. Constantin Mourouzi est avec nous cet après-midi. Et avant de lui donner la parole, je vais vous raconter comment cette impératrice, réputée l'amie des philosophes, a réagi au soubresaut de la Révolution française.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Julia sur les origines des rites et des pratiques liées au service du vin.
Voilà un passionnant sujet. Vous savez qu'on est en train de préparer la Cité internationale du vin à Bordeaux et on s'intéresse beaucoup là-bas à ce sujet. Pour le moment, nous prenons la route de Saint-Pétersbourg à la rencontre de l'impératrice Catherine dans ses fastueux palais dorés.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un sujet en soi passionnant et qui mériterait qu'on le creuse, c'est toute la question du retentissement d'un événement comme la Révolution française dans les différents pays d'Europe. Une Europe qui à l'époque est composée de régimes monarchiques pluriséculaires et au sein de cette Europe monarchique arrive cet événement, cet orage qui déchaîne les passions. Alors bien entendu, l'événement ou les événements devrais-je dire trouvent d'ardents défenseurs et l'on voit certains défendre le monde nouveau qui apparaît. Mais souvent, et disons-le pour l'essentiel, la Révolution française déconcerte, elle choque, elle scandalise, elle est en train de rebattre toutes les cartes diplomatiques, elle défie les souverains, et ces souverains sont bien obligés d'y répondre. Parmi eux, j'ai presque envie de dire, au premier chef se trouve l'impératrice de Russie. Pourquoi au premier chef? Parce qu'on l'a dit l'amie des philosophes. Elle a si longtemps correspondu avec Voltaire, avec Diderot. Catherine II va recevoir ce souffle politique extraordinaire en plein visage. Des circonstances qui vont révéler une fois encore dans les dernières années de son règne, l'instinct politique tellement singulier de cette souveraine extraordinaire. Nous sommes donc en 1789, ce qui veut dire que l'impératrice a tout juste 60 ans et elle règne sur toutes les Russies depuis déjà 27 années. C'est une petite princesse allemande, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, bien entendu. Elle aurait pu très légitimement limiter ses ambitions à la conquête mouvementée, et vous allez voir ô combien, du trône des Romanov, mais non. Depuis qu'elle règne, sa politique ferme et volontaire ne cesse d'ébahir le monde. À coups de boutoirs militaires et diplomatiques, elle impose la Russie, ce pays qu'elle a littéralement embrassé corps et âme, elle l'impose comme une puissance de premier plan et une puissance qu'elle veut ancrer dans l'Europe. Ça, c'est très important, bien entendu. Catherine se donne l'image d'une souveraine éclairée. Elle est incontestablement à l'écoute des esprits de son temps. Elle a tissé, je vous le disais, des liens avec un certain nombre d'éminents philosophes des Lumières, Voltaire et Diderot, je vous l'ai dit, d'Alembert également. Et on peut dire que de ces astres d'un siècle à la recherche d'un nouveau jour, elle s'est faite la lointaine, mais néanmoins très sûre protectrice. Et même, disons-le, elle s'en est faite la mécène. C'est indéniable néanmoins, Catherine, au moment où éclate la Révolution en 1789, Catherine a vieilli. D'abord, son apparence a beaucoup changé. Écoutez ce que nous en dit la portraitiste de la reine Marie-Antoinette, à laquelle on va très bientôt consacrer une somptueuse exposition au Grand Palais, vous savez. C'est Madame Vigée-Lebrun, bien entendu. Voilà ce que dit Élisabeth Vigée-Lebrun. « J'étais d'abord extrêmement étonnée de la trouver très petite, nous dit-elle. Je me l'étais figurée d'une grandeur prodigieuse, aussi haute que sa renommée. Elle était fort grasse, mais elle avait encore un beau visage. J'ai dit qu'elle était petite de taille, pourtant, les jours de représentation, sa tête haute, son regard d'aigle, cette contenance que donne l'habitude de commander, tout en elle, enfin, avait tant de majesté qu'elle me paraissait la reine du monde. C'est ainsi qu'elle apparaît à la portraitiste et c'est ainsi qu'elle s'imagine elle-même très probablement. Catherine a donc pris de l'âge, son corps lourd est enserré, maintenant engoncé dans ses robes, vous savez, on aura l'occasion aussi d'y revenir. Elle n'en conserve pas moins une autorité intacte et une vigueur naturelle qui étonne encore les ambassadeurs, des qualités qu'elle emploie dans une vie amoureuse très active. Alors vous savez qu'il y a cet homme qui reste très proche d'elle, Potiomkin, qui est son habile conseiller, son inspirateur visionnaire, un meneur d'hommes aussi qui a fait des merveilles dans la guerre que conduit Catherine contre l'Empire ottoman. Si elle a comblé ce favori, qui est en même temps ce grand ministre, ce conseiller devrais-je dire, si elle l'a comblé d'honneur, lui qui est devenu son amant depuis une quinzaine d'années, on peut dire qu'il ne lui suffit plus et qu'elle a cherché ailleurs d'autres hommes plus jeunes. Bientôt, elle jette son dévolu sur un lieutenant d'un régiment de la garde. Le nouvel élu a 22 ans, tenez-vous bien. Il s'appelle Platon Zuboff. Il est d'une beauté prodigieuse, mais il est aussi, disons-le, assez médiocre, ambitieux, imprudent. Il est surtout très capricieux, le beau Platon. Alors l'impératrice va lui passer tous ses caprices, au grand désarroi de Potiomkin, qui cette fois n'a pas été associé au choix de l'amant de sa souveraine et compagne. De là à penser que l'étoile de Potiomkin est en train de pâlir, il n'y a qu'un pas. Les extravagances de Zuboff, expliquait Henri Troya, semblent à Catherine d'innocentes gamineries. Avec l'âge, elle a perdu toute lucidité en amour. Elle porte des œillères roses, comme c'est bien dit. Il faut vous dire que Catherine ne porte pas seulement des œillères en matière d'amour. C'est une femme qui a des idées souvent bien arrêtées. En politique, en revanche, elle essaie de rester le plus lucide possible. Elle suit bien sûr avec attention les soubresauts de l'actualité européenne et quand cette révolution éclate en France, elle prend très vite la mesure de ce qui se passe. Voilà ce qu'écrit Hélène Carrère-Dancos. Son inquiétude était d'autant plus justifiée que le rapport sur les événements que lui adressa son ambassadeur à Paris tirait des conclusions radicales du 14 juillet. Je cite l'ambassadeur, « Le pouvoir royal, écrivait-il sans embâge, a été supprimé. » Fin de citation. Si ce jugement était prématuré, il avait bien perçu la conséquence première, nous dit Hélène Carrère-Dancos, la disparition de la monarchie de droit divin, seule conception de l'exercice du pouvoir royal que Catherine reconnut. En acceptant d'accrocher à son chapeau la cocarde tricolore, Louis XVI entérinait de fait le démantèlement de son pouvoir. Et ça, pour Catherine, c'est bien plus qu'une erreur, c'est plus qu'une faute politique à ses yeux. C'est un scandale, c'est une aberration qu'elle n'arrive même pas à comprendre. Et évidemment, toutes les nouvelles qui lui arrivent de Paris la scandalisent, elle tombe des nues. Quand le titre royal de Louis XVI change, elle écrit « Qu'est-ce que c'est que ce roi des Français ?» Parce que vous savez qu'il était auparavant, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Et voilà Louis XVI, simple roi des Français. « Et pourquoi la France, 8 fois centenaire, a-t-elle disparu, laissant place aux Français » écrit-elle. Et elle met aussi en marge d'une lettre ce commentaire acerbe. « Est-ce qu'un cordonnier peut diriger les affaires de l'État ?» Voyez se dessiner la vraie pensée de l'impératrice. Une chose est sûre. Comme les autres souverains européens, Catherine est bousculée, elle est heurtée dans ses convictions, bien entendu, par cette situation totalement inédite. Cette France incarnait littéralement le régime monarchique et voilà qu'elle vacille sur ses bases. La voici qui se reprochait presque, en ayant soutenu Voltaire et Diderot, d'avoir aidé malgré elle à cette abomination, assure Paul Mourouzi. Elle se met à haïr cette révolution française autant qu'elle aura aimé dans sa jeunesse les contestations. Et les libéraux, plus que jamais. Sa vigilance va redoubler vis-à-vis des intellectuels russes, chez qui l'on sent, du moins pour certains d'entre eux, une tendance jacobine parfaitement hérétique. Cette mauvaise disposition, Catherine la révèle dans un événement qui illustre sa face sombre aux yeux de beaucoup d'historiens, c'est la célèbre affaire Radichev.
concerto pour flûte par Frédéric II de Prusse. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand continue de vous emmener sur les pas de la grande Catherine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, c'est l'impératrice de Russie Catherine II qui est à l'honneur, Franck.
Et oui, nous essayons d'analyser la réaction de l'impératrice Catherine aux événements de la Révolution française. Alors, il faut vous dire que pendant tout le cours de son règne, elle aura favorisé l'essor d'une certaine élite nouvelle, toute une haute fonction publique dévouée au régime, efficace, qui s'est largement formée sur les modèles de l'Occident en général et de l'Europe tout particulièrement. Et parmi eux se trouve le fameux Alexandre Radichev, dont je voudrais vous parler maintenant. C'est un membre du corps des pages au départ. Il a d'ailleurs été envoyé par l'impératrice, enfin sur ordre de l'impératrice, se former à l'étranger. Il était tout jeune à l'époque. Il en est revenu pétri de la fameuse philosophie des Lumières et il a par la suite poursuivi une belle carrière dans l'administration russe. Seulement voilà, ce brillant sujet va publier bientôt un ouvrage qui dresse un portrait sans concession de la société russe dans son état, justement de 1789. Cet ouvrage s'appelle « Voyage de Pétersbourg ». Pétersbourg à Moscou, tout simplement. En 1790, au moment où l'ouvrage est publié, il plonge l'impératrice dans une vive colère. Voilà les commentaires que lui inspire la lecture. À ses yeux, Radichev n'est ni plus ni moins, je cite, que le premier envoyé en Russie de la Révolution française. Voilà, c'est ainsi qu'elle l'a catalogué. Et elle déplore qu'il veuille, je cite, soulever les paysans contre les propriétaires, les troupes contre leurs chefs, conduire les rois à l'échafaud. Il est vrai que l'auteur Radichev va assez loin dans la dénonciation qu'il orchestre tout au long de ce livre. La situation des serfs, notamment de tous ces paysans réduits dans un état de semi-esclavage, est carrément dénoncée. Et à la face d'une élite russe souvent épouvantée par les événements révolutionnaires en France, on voit Radichev agiter le chiffon rouge, c'est le cas de le dire. Il écrit, je cite... Nos frères enchaînés attendent leur heure, une occasion propice. Le tocsin sonne, la mort et l'incendie seront les récompenses de notre dureté et de notre inhumanité. Plus nous tarderons à les libérer de leurs chaînes, plus nous nous obstinerons à les y maintenir et plus foudroyante sera leur vengeance. Ça passe pas du tout dans les palais de la Grande Catherine, évidemment. À partir de ce moment, de l'œuvre de Radichev, nous dit Hélène Carrère-Dancos, l'impératrice fit une affaire personnelle. Et elle ajoute, dans un contexte plus paisible, où le voyage n'aurait pas été illustré par les travaux pratiques de la Révolution française, Catherine eût peut-être raisonné plus sereinement, réfuté les arguments de Radichev. Mais en 1790, c'est l'émeute prochaine qu'elle décèle derrière les descriptions colorées de l'écrivain. Et à l'émeute, il n'est qu'une réponse, l'implacable répression. N'oubliez pas que nous sommes en Russie tout de même. Et précisons que pour Catherine, la dénonciation de Radichev a pu avoir l'allure d'une sorte de défi, quasiment un soufflet personnel. C'est aussi le rappel de ce qu'elle n'a pas fait dans sa fameuse entreprise de modernisation de la Russie, et en particulier cette abolition de l'esclavage dont elle a beaucoup parlé sans jamais y arriver. Ainsi, pour le philosophe Radichev, si j'ose ainsi m'exprimer, la réaction ne se fait pas attendre, il est arrêté, et on n'y va pas par quatre chemins, il est condamné à mort. La peine, je précise tout de suite, sera commuée en 10 années de déportation en Sibérie. Oh, 10 années en Sibérie, ça vaut une condamnation à mort, hein, entre nous soit dit dans la pratique. Cette peine est donc très lourde. Elle est extrêmement éloignée de l'image qu'on a pu avoir et donner d'une impératrice philosophe. Cette Catherine amie de Voltaire, encore une fois, qui paraît, la peine et la décision politique, qui paraissent participer d'un durcissement de la politique russe, un durcissement lié, vous l'avez compris, directement à la Révolution française. Dans la même période, Catherine décide aussi, entre autres, de censurer un certain nombre d'ouvrages. Elle interdit la franc-maçonnerie en Russie, ce qui démontre d'ailleurs la grande lucidité politique d'une souveraine qui avait compris quel rôle la franc-maçonnerie avait pu jouer dans les événements parisiens. À la suite d'Hélène Carrère-Dancausse, on peut penser néanmoins que l'idée de rupture politique à cette période est à relativiser, parce que il faudrait pas croire que l'on ne soit passé du jour au lendemain d'une impératrice philosophe extrêmement ouverte à une despote de moins en moins éclairée. Ça n'est pas comme ça que se sont passées les choses. Catherine était acquise aux idées des Lumières, c'est incontestable, à titre privé si je puis dire, mais à titre public, elle n'en a pas moins exercé un pouvoir extrêmement ferme et très pragmatique. Pour elle, il y a une différence entre ce qui est valable dans le monde des idées et ce qui est réalisable dans la réalité politique non seulement de son temps, de son époque, mais aussi des lieux où elle exerce le pouvoir, c'est-à-dire en Russie, surtout lorsqu'à ses yeux du moins apparaissent ce qu'elle peut analyser comme des menaces envers la sécurité de l'État. Voilà ce qu'elle écrit en 1793. Vous imaginez que en 3 ans de temps, son point de vue a encore eu le temps de se raffermir un peu. Les philosophes français qui ont préparé la Révolution se sont trompés sur un point. C'est l'impératrice qui écrit. Ils s'adressaient à des êtres humains qu'ils croyaient doués de cœur et de raison. Mais en réalité, ils ont été entendus par des procureurs, des avocats et mains propres à rien qui, se couvrant de leurs enseignements, en ont profité pour perpétrer les pires forfaits. Et le voilà, ce pragmatisme que d'aucuns jugeront lucide. Du reste, elle va l'appliquer, ce pragmatisme, dans son attitude envers cette révolution qu'elle déteste tant. Et la grande question qui se pose, celle qui nous concerne, si je puis dire, et là je vais vous faire trembler, parce que nous parlons quand même de la très puissante armée russe, de la très grande puissance de l'Est et du Nord, est-ce que l'impératrice va, oui ou non, déclarer la guerre à la France ?
Tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire, sur Twitter également. N'hésitez pas, on attend vos messages avec le hashtag ACDH. Restez avec nous sur Europe 1. Vous aurez donc la réponse à cette question de Franck Ferrand posée à l'instant. Est-ce que la grande Catherine va déclarer la guerre à la France ? À tout de suite.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Comment Catherine II, l'impératrice de Russie, a-t-elle réagi au soubresaut de la Révolution française ? Va-t-elle déclarer la guerre à la France ? Réponse maintenant, Franck.
Eh oui, alors évidemment, vous avez compris que pour elle, c'est une question essentielle. En printemps 92, la France révolutionnaire a déclaré la guerre à l'Autriche, les Prussiens qui sont alliés de Vienne se précipitent dans le conflit, et l'impératrice peut à bon droit se demander si elle doit ou non épouser ce qu'elle appelle elle-même la cause des rois. Elle a multiplié les gestes. Jusqu'ici, elle a accueilli à sa cour un certain nombre d'émigrés, bien sûr royalistes français. Elle a cherché tous les moyens à mettre un terme à ce qu'elle appelle nommément la peste française. Elle encourage, si vous voulez, les Autrichiens et les Prussiens dans leur lutte. Mais, Madame Carrère-Dancausse le souligne, pour ce qui est de contribuer à la croisade antirévolutionnaire, des intentions pieuses aux actes concrets, le pas ne sera jamais franchi. Et, quand même intéressant, ça. Alors, c'est vrai que Catherine, à l'époque, a d'autres priorités. Elle s'est beaucoup épuisée dans ce très long conflit contre les Turcs. À présent, la situation dégénère en Pologne, bien entendu. Et puis, disons les choses clairement, ni l'Autriche ni la Prusse ne sont ses amis. Et les voir s'épuiser dans une guerre contre la France révolutionnaire est plutôt sympathique à ses yeux. Elle n'a pas mieux à faire qu'attendre d'une certaine manière. Sans oublier que il n'est plus là, le Potemkin qui jusqu'alors l'avait aidé dans ses grands conflits. Il est mort, le cher compagnon, en 1791. Et autour de lui, un certain nombre de grands personnages. La souveraine sent la mort rôder, si je puis dire, autour d'elle. Et puis, elle est, vous le savez, obsédée par cette question qui est celle de sa succession. Ses relations avec son fils, le tsarévitch Paul, sont très mauvaises. Elles sont même carrément exécrables. Ce qu'elle aurait voulu, c'est évincer Paul pour mettre à sa place son petit-fils Alexandre, celui qui plus tard régnera sous le nom d'Alexandre Ier. Mais c'est très compliqué, tout ça bien entendu, jusqu'à ce que Catherine reçoive le coup ultime. Ce jeudi 16 novembre 1796, raconte Paul Mourousi, à 6h du matin, comme d'habitude, elle se mit devant sa table de travail. On est en novembre, 16 novembre. Les premiers flocons de neige d'un hiver précoce tombaient sur la ville, sur le fleuve, sur les quais et sur les jardins. Comme chaque matin, le valet préposé à la première collation frappa timidement à la porte. Au bout d'un certain temps, ne recevant aucune réponse, il pénétra dans le cabinet de travail. Catherine, inanimée sur le tapis de la garde-robe, gisait là, en proie à une attaque d'apoplexie. L'impératrice est même tellement lourde qu'on ne peut pas la porter sur son lit. On l'allonge comme on peut sur un matelas au sol et ça va être une terrible agonie. Et puis la mort. Et déjà, son fils Paul est là, qui a fouillé dans les papiers à la recherche d'un testament qui pourrait lui être défavorable. Qu'il se rassure, Paul Ier. Il règnera. Il règne déjà. Alors, la question se pose évidemment parce que pendant ce temps, on est donc en 1796 et la Russie n'est toujours pas entrée en guerre contre la France républicaine. Et au-delà des passions philosophiques qui sans doute sont sincères, Catherine II a fait preuve, on peut le dire jusqu'au bout, d'une sorte de dévotion à la raison d'État. L'ironie de l'histoire veut qu'en se focalisant sur les priorités de la Russie, elle a, qu'on le veuille ou non, et sans doute bien involontairement, contribué au succès de la vague révolutionnaire qui atteint pour le moment la France, mais qui bientôt atteindra d'autres pays et qui, beaucoup plus tard, et par un effet quasiment d'écho historique, atteindra la Russie elle-même. Vous savez à quel point les bolcheviks de 1905 et surtout de 1917 se réclameront ouvertement de la Révolution française. Eh bien, Catherine n'a pas réagi directement. D'une certaine manière. Il faut dire que les relations qu'elle entretenait avec la France étaient faites d'une fascination incontestable, mais aussi de rancœur, de déception, de méfiance. En tout cas, elle aura jusqu'au bout gardé la tête froide. On peut dire que Catherine aura été une fine politique et qu'elle aura fait preuve d'un très grand réalisme. C'est mieux que ça même. Elle aura fait preuve d'une certaine acuité puisqu'elle est allée jusqu'à l'anticipation. Voilà ce qu'elle dit. C'est quand même assez étonnant. Encore une fois, elle est morte en 1796, c'est-à-dire 3 ans avant le coup d'État de Napoléon Bonaparte, bien avant Napoléon. Et voilà ce qu'elle dit. « La France pourra renaître, plus forte que jamais, si surgit l'homme providentiel, adroit et courageux, capable de devancer son peuple et peut-être son siècle. » Ça n'est pas un devin, ça n'est pas une voyante qui écrit cela, c'est l'impératrice de Russie, c'est la grande Catherine. Bonjour Prince, merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec l'ouvrage de votre père qui est réédité chez France Empire. C'est une biographie de Catherine II et avec vous, nous allons replonger dans la Russie des tsars.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Concerto pour flûte par Frédéric II
oui.
De Prusse.
C'est quand même amusant, hein. Ça fait 2 fois que nous diffusons depuis le début de cette émission des musiques qui ont été composées par le roi de Prusse, par le grand Frédéric de Prusse, qui a été, disons-le, après avoir été l'un des soutiens de Catherine, aura été un de ses ennemis. Nous allons y venir dans un instant avec Constantin Mourouzi. C'est vrai qu'en fait, le roi de Prusse était aussi musicien, il le prouve là.
Oui, le roi musicien, effectivement, que vous entendez à l'instant sur Europe 1. Aujourd'hui, on s'intéresse à la grande Catherine, Catherine II, impératrice de Russie. Et vous recevez aujourd'hui, Franck, le prince Constantin Mourouzi, fils de l'historien, romancier et journaliste Paul Mourouzi, qui a écrit « Catherine II, impératrice de toutes les Russies », dont il y a une réédition actuellement chez France Empire.
Et oui, et c'est une occasion d'ailleurs de saluer la mémoire de Jean Castarède également, chez France Empire, qui nous a quittés il y a peu de temps. Alors, les relations entre Catherine et la France sont un peu des relations orageuses et passionnées en même temps. Elle est allemande, ne l'oublions pas, cette impératrice de Russie, même si elle va devenir plus russe que les Russes, ça on y viendra tout à l'heure, mais elle a un véritable faible pour la France et surtout pour ses philosophes. C'est assez étonnant ça, Constantin Mourouzi.
Oui, c'est-à-dire que il faut peut-être voir que Catherine II, qui n'était pas encore Catherine II quand elle était toute jeune fille.
Oui.
Elle était dans une sorte de propriété qu'on appelait une principauté, qui était donc la principauté d'Anhalt-Zerbst, n'est-ce pas? Et là, elle a reçu étonnamment une éducation très soignée. Et à savoir que le français, justement, était sa langue non seulement préférée, mais impérative. Car à cette époque, au XVIIIe siècle, le français était la langue chic, la langue diplomatique.
C'est la langue des cours.
Par excellence, oui. La langue des cours. Et vous parliez tout à l'heure justement de Frédéric II de Prusse. Il parlait un français merveilleux, oui. Hormis le fait d'être musicien, et avec, naturellement, Monsieur de Voltaire.
Il est possible, on peut le dire, vous avez raison d'insister sur cette dimension-là, parce que il est tout à fait possible que le rayonnement étonnant d'un certain nombre de nos auteurs, Voltaire, Rousseau, etc., soit lié directement au fait que le français ait été la langue, comme vous dites, la langue chic à l'époque. Et donc, quand il publiait un ouvrage, que l'ouvrage soit publié à Paris avec approbation et privilège, ou qu'il soit publié clandestinement à l'étranger, il faisait généralement le tour de l'Europe et on le lisait à Berlin et à Saint-Pétersbourg, peut-être avant même que les lecteurs parisiens n'en aient eu connaissance. C'est assez étonnant, ça.
Étonnant. D'ailleurs, les traités étaient écrits en français à cette époque-là.
Alors, Catherine, évidemment, va se passionner assez tôt pour la littérature française et elle entretient des relations privilégiées, en particulier avec deux de nos grands intellectuels. On va mettre d'Alembert de côté, même s'il est aussi très intéressant. Ce sont bien sûr Diderot et Voltaire. Alors, Diderot, c'est une relation qui va devenir une relation quasiment d'amitié, puisqu'il va travailler pour l'impératrice, il va la rencontrer.
Non seulement il va la rencontrer, mais il va avoir un apport considérable quant à son mécénat artistique. Étonnamment, Diderot l'a beaucoup aidé pour négocier ses achats les plus extraordinaires et qui ont fait la splendeur de l'Ermitage. Je pense à un certain nombre de Rembrandt, de Rubens.
Diderot est son conseiller pour les arts, en quelque sorte. C'est lui qui lui dit « Vous devriez acheter tel ou tel tableau ou telle tapisserie que j'ai vue qui est très belle. »
Absolument.
Fait.
Oui. Absolument, c'est étonnant.
Et puis elle récupère à la bibliothèque aussi.
Oui. Et alors, à ce propos, ce qui est une anecdote, il y a un certain Lanskoy qui porte le nom, vous savez, d'un peintre ensuite, n'est-ce pas, Lanskoy, qui était un des favoris les plus oubliés, c'est pour ça que j'en parle, qui avait une tête d'ange, mais une santé qui était extrêmement délicate, malheureusement. Mais ce Lanskoy a eu un rôle très prépondérant quant à ce mécénat. Et donc, il a été, par voie de conséquence, proche de Diderot.
Oui, on parlait de Platon Zuboff, mais je crois que Lanskoy était encore plus jeune, hein, d'ailleurs.
Encore plus jeune, mais beaucoup plus positif.
Plus positif, oui, c'est vrai.
Alors qu'on parle beaucoup plus de Platon Zuboff, dont la famille est très respectable, bien sûr, de très bonne noblesse.
Alors, ça, c'était Diderot. Mais Voltaire a été pour l'impératrice encore plus important. Elle le considérait, disons-le, quasiment comme son maître à penser. D'ailleurs, elle lui écrivait en permanence, hein.
Elle trouvait que, avec le prince de ligne, c'était celui qui la voulait le plus rire.
C'est ça. Il faut dire qu'il était assez drôle, Voltaire, parfois involontairement.
Oui, c'est exact. Que vous dire à propos de la France, justement, et de cette Russie de Catherine? Je crois qu'il y a quelque chose de très important quant aux heurts, quant aux difficultés. Les difficultés, moi, je crois que, hormis la Révolution française qui est arrivée après, petit à petit, il y a eu avant l'histoire avec la Turquie. Et la Turquie a été, je crois, l'ombre principale. Car, déjà à l'époque de François Ier, vous savez que la France était très proche de la Turquie. Et ainsi de suite. Pierre le Grand, donc, lui, de son côté, a essayé déjà de la neutraliser et d'avoir ce projet grec qu'elle a eu d'une façon intensive et qui lui a permis, parce que ceci, il faut le dire quand même, c'est d'actualité,
oui.
Qui lui a permis d'avoir toute la côte de la mer Noire.
C'est ça.
Au-delà de la Crimée.
Bien sûr, alors on parle beaucoup, évidemment, en ce moment de la péninsule de Crimée, ça bien entendu, mais au-delà de la Crimée et de la mer Noire, ce que vous soulignez là, c'est le lien orthodoxe très fort entre cette Grèce et une partie de la Méditerranée, l'ancien empire byzantin, disons-le. C'est-à-dire que Catherine, qui n'était pas orthodoxe de naissance par définition,
non.
Va épouser la cause orthodoxe et va devenir, en quelque sorte, le porte-enseigne, est-ce qu'on peut dire ainsi, de la cause orthodoxe?
Absolument. Absolument. Elle a su s'adapter non seulement à l'Église, elle s'est fait très bien voir du patriarcat et de toute la haute noblesse et la noblesse qui était, comme dirais-je, mon cousin très éloigné, Dimitri Chakoskoï, qui est d'ailleurs président actuellement de la noblesse russe. il me dit il peut pas y avoir de Russie sans orthodoxie. Et surtout à cette époque-là, vous imaginez. Alors qu'une Allemande venant de cette propriété obscure dont je parlais, s'adapte à cela et montre son immense culture à ces Russes, c'est ça qui les a éblouis aussi, parce qu'elle savait tout, non seulement sur l'époque de Platon, Socrate, etc., mais elle savait tout sur Byzance. Elle connaissait l'histoire de Byzance et elle savait très bien que c'était là les racines, la vraie culture russe.
Elle était d'une certaine mesure à la dimension de Pierre le Grand. Elle a prolongé, poursuivi, accompli le projet de Pierre. Alors, il ne faudrait pas oublier entre-temps les tsarines, Catherine Ier, Elisabeth, etc., qui ont joué elles aussi leur rôle incontestablement. Absolument. Mais elle a été, cette Catherine, elle a été celle qui a permis au grand projet, comment dirais-je, à la fois occidental et orthodoxe de Pierre le Grand, de prendre corps. Et ça, c'est très intéressant pour ce qui est en train de se passer actuellement, parce que si on regarde bien quels sont ces piliers de la Russie ancestrale, si je puis dire, on retrouve ces grands axes de force, un intérêt méfiant pour une pensée européenne qui séduit d'un côté mais qui inquiète d'un autre, et suivez mon regard, un intérêt de plus en plus vif pour tout ce qui concerne l'orthodoxie et pour tout ce qui concerne l'influence orthodoxe sur le milieu de l'Europe et sur le sud aussi, hein, jusqu'à la Méditerranée, comme quoi les problématiques qui étaient celles du temps de Catherine II peuvent nous permettre parfois de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans un instant, si vous le voulez bien, Constantin Morouzi, nous allons revenir sur l'entourage de Catherine et notamment sur ce personnage dont j'ai eu l'occasion de prononcer plusieurs fois le nom et qui est un peu son conseiller, j'allais dire occulte même pas, qui est tout simplement son conseiller, à savoir le célèbre Potemkin.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, c'est la grande Catherine, Catherine II, impératrice de Russie, qui est à l'honneur sur Europe 1. Et pour en parler, Franck, vous recevez le prince Constantin Morouzi, fils de l'historien, romancier et journaliste Paul Morouzi, et auteur de Catherine II, impératrice de toutes les Russies.
Il faut aller évidemment à Saint-Pétersbourg pour s'imprégner de cette atmosphère de la Russie du XVIIIe siècle. Je disais tout à l'heure, j'évoquais rapidement l'impératrice Élisabeth. Elle a joué un rôle tout à fait essentiel dans l'architecture, hein, puisque les grands palais ont été bâtis par Rastrelli sous le règne d'Élisabeth. Mais enfin, on a quand même sur place un souvenir très présent de l'impératrice Catherine, ne serait-ce qu'à travers les portraits monumentaux qui ornent ces différentes résidences. Je pense au palais de Tsarskoïe Selo notamment.
Bien sûr.
C'est un
palais de Tsarskoïe Selo d'ailleurs où un Écossais, parce qu'il n'y avait pas que des Français, il y avait cet Écossais Cameron qui a joué un rôle considérable quand
qui a apporté qui a apporté le goût néoclassique, on va dire, dans cette Russie.
Le goût néoclassique, hein. Et puis le jardin anglais, en quelque sorte.
Ouais. Il y a chez Catherine II un goût très sûr. C'était une femme qui aimait tous les raffinements, la musique, bien entendu, et l'opéra, le théâtre, qui lisait beaucoup de poésie et de philosophie, on l'a compris, qui collectionnait ses bibliothèques, parce qu'on l'a, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais elle avait quand même acheté les bibliothèques de Diderot et de Voltaire, s'il vous plaît, qu'il faut aller voir en Russie aujourd'hui, c'est quand même un peu étonnant. Elle avait ce goût pour la peinture absolument inouï, le goût pour les hommes, disons-le. Et d'ailleurs, votre père, Paul Morouzi, consacre une part importante au grand conseiller de Catherine, à commencer par Orlov, qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, évidemment.
Orlov, c'est-à-dire que c'est étonnant, c'est une famille, si vous voulez, issue de palefreniers, comme d'autres, hein, comme les Murat ou les Bernadotte, par exemple, et qui, par la force de leur talent, de leur mérite, sont arrivés donc aux hautes fonctions dans l'armée, sont fait remarquer, et comme Orlov de surcroît était d'une beauté spectaculaire, c'était peut-être le plus bel homme de son époque, il est évident qu'il n'a pas pu échapper au regard de Catherine II. Et elle en a fait son amant, et elle a eu certainement bien raison pour ce que vous savez. C'est-à-dire que sans Orlov, il est fort possible qu'elle n'atteigne pas la couronne de toutes les Russies. Il a énormément...
Il l'a poussée, il l'a soutenue.
Il l'a soutenue.
Au moment où elle est en train de récupérer, si je puis dire, le pouvoir qui appartenait au tsar Pierre III, hein, qui était son époux, en fait.
Son époux, donc prince d'Holstein-Gottorp, comme on sait, et qui était beaucoup plus prussien que russe. Alors que elle, bien que d'origine allemande, comme vous l'avez dit si bien, était plus russe que les Russes.
Oui, parce que ça, c'est un autre aspect, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'ancrage de la Russie dans l'Europe de l'époque, et là, c'est tout l'héritage de Pierre le Grand. Mais la cour la plus importante et celle dont l'influence est de très loin la plus considérable au XVIIIe siècle, c'est la cour prussienne, et ce sont les Allemands. Et la grande question de la politique russe à l'époque, ça on l'a complètement oublié aujourd'hui, c'est de savoir si les Allemands seront un peu très ou carrément très très importants en fait. Et alors là, comme elle-même est d'origine allemande, elle est d'origine prussienne, ça aurait pu être le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'elle épouse littéralement la Russie, les projets russes, avec ses obsessions d'ouverture vers les mers, et notamment les mers du Sud, avec cette guerre terrible contre l'Empire ottoman. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre de religion à cette époque-là, Constantin Morouzi ?
C'est-à-dire qu'elle avait une fascination pour l'Orient.
Oui.
Et pour elle, elle le disait à Voltaire d'ailleurs, elle lui disait que la vraie grandeur est en Orient. Si on ne s'occupe pas de l'Orient, on n'a pas, je veux dire, là, cette grandeur. Et donc, l'Empire ottoman, pour elle, comme la Révolution française, que vous citiez, était peut-être la pire des catastrophes. Parce que cet Empire ottoman, d'une part,
avait englouti l'Empire byzantin, il faut le dire.
Avait englouti l'Empire byzantin, c'est très bien dit. Et puis, une partie de l'Europe aussi. Mm-hmm. Il contaminait l'Europe jusqu'à la France, elle le disait elle-même.
Ils étaient allés deux fois aux portes de Vienne, les Ottomans. Enfin, ils s'approchaient, en quelque sorte.
Donc, pour elle, c'était la grande catastrophe. Et il fallait y remédier, car moi, je vois même dans ma propre famille, mon père a écrit aussi ce livre. Pourquoi ? Il en parle d'ailleurs. Il a un ancêtre à l'époque, qui était prince régnant de Moldavie, et qui avait des liens avec la grande Catherine. Et il aimait la France. Il parlait français. Il avait des secrétaires et des conseillers français, et Catherine II a encouragé tous les Balkans, que ce soit la Moldavie, la Bessarabie, la Serbie, etc., encouragé tout ce monde à s'instruire de la France, si vous voulez, voyez-vous. Mais elle ne comprenait pas, d'un autre côté, cette stratégie philo-turque, si l'on peut dire. Alors, c'est de la stratégie, c'est évident qu'il y avait des intérêts géopolitiques.
Voilà. Et ça, c'est tout le réalisme et toute la lucidité de cet esprit politique qu'a pu être Catherine, même si l'influence d'un certain nombre de ses conseillers se fait sentir à des moments très cruciaux du règne. Mais il y a bien chez elle une compréhension, une intelligence générale de la politique, y compris sur la question polonaise, question douloureuse, surtout lorsqu'on évoque le XVIIIe siècle.
Elle voulait pas s'attaquer à la Pologne, comme vous savez, mais elle y a été forcée. C'était encore des jeux, des impératifs géopolitiques, par la Prusse, de par l'Autriche, entre le fameux Frédéric II et Joseph II, avec lequel d'ailleurs elle avait des liens aussi, contre l'Empire ottoman. Mais à un moment donné, la politique est quelquefois quelque chose de terrible, aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs, parce que on a souvent dit que c'était l'art du mensonge, n'est-ce pas ? Et quand on pense...
Ou en tout cas de la dissimulation.
La dissimulation. Parce que quand on voit les plus grands diplomates, comme Talleyrand ou Metternich, eh bien on en a une preuve incontestable.
En Pologne, elle va mettre un de ses protégés sur le trône, encore un de plus, si je puis dire.
Stanislas Poniatowski. Oui. Et donc, ce qui prouve aussi qu'elle était très éclairée, très ouverte et foncièrement chrétienne. Je pense, comme beaucoup, qu'elle avait une vraie foi et une foi de bonté. C'était pas, malgré toutes les critiques qu'on a pu faire d'elle, vous savez, quel quatre que ce soit, il y a toujours ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. Et à propos de lumière, sans faire de mauvais jeu de mots, je pense que la lumière penchait beaucoup plus de ce côté-là.
Oui, bien sûr. Alors, la lumière, quand on lit l'ouvrage de votre père, de Paul Morouzi, qui s'appelle tout simplement « Catherine II, impératrice de toutes les Russies » chez France Empire, la lumière, elle est du côté de cet homme étonnant qui aura avec elle, sinon partagé, du moins en partie assumé le pouvoir, c'est-à-dire évidemment Grégory Potemkin, qui est le grand amour de sa vie, est-ce qu'on peut dire ça ?
On peut dire, ah oui, vraiment, vraiment. Oui, parce que quand il est mort, d'ailleurs, elle a dit maintenant, je n'ai plus personne. Hein, ça a été son mot. Maintenant, je n'ai plus personne quand Grigori Potemkin est mort. Ben, c'est grâce à Grigori Potemkin, tout de même, que elle a pu atteindre, si vous voulez, la mer Noire, la Crimée, et au-delà. Kerch, Azov, jusqu'à Odessa. Ce qui est quand même étonnant.
Est-ce qu'ils se sont mariés tous les deux, un peu comme s'étaient mariés Louis XIV et Madame de Maintenon,
oui,
de façon morganatique,
oui,
et secrète?
C'est la même histoire.
C'est la même histoire?
C'est la même histoire. Oui. Ça a été prouvé.
Donc il était son mari?
Il était son mari. Alors c'est la famille Volkonsky, je sais pas si vous pouvez peut-être l'interroger aujourd'hui.
Pourquoi
ça,
pas,
c'est
oui.
Peut-être à voir. Qui aurait les documents. Que sont-ils devenus?
Que sont devenues les preuves du mariage?
Les preuves du mariage.
Sorte,
ouais. Alors c'est ce que j'ai toujours entendu dire.
Potemkin jouait un rôle qui n'a pas toujours été très positif, il faut le dire. On parle en Russie de potemkinisation pour parler du maquillage des réalités, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on dit que lorsque l'impératrice se déplaçait, alors vous allez dire si c'est une légende ou une réalité, on dit que lorsqu'elle effectuait des voyages à travers la Russie, le prince Potemkin faisait bâtir de fausses villes avec des façades, etc., pour donner une impression de prospérité, d'économie prospère, etc., alors qu'en fait tout ça n'était que du théâtre. Il faut dire qu'elle s'y connaissait en matière de théâtre, Catherine, elle adorait ça.
Mais elle adorait ça, c'est elle qui l'a fondée, oui, d'ailleurs, à l'Ermitage.
Alors est-ce que c'est vrai, cette potemkinisation?
C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, il y a du vrai, mais c'est très exagéré par les jaloux, si vous voulez.
Oui.
Parce que Potemkin, vous imaginez sa position, vu d'où il venait, c'était quand même une famille de petite noblesse, très modeste par rapport à une majesté ou même la haute noblesse, si vous voulez.
Donc il avait fait beaucoup de jaloux et d'envieux.
Il avait fait beaucoup d'envieux.
Oui, oui. Et il était aussi, disons-le, très croyant. Ça, c'est un rôle, votre père insiste là-dessus, mais c'est essentiel pour comprendre la politique, notamment la politique turque.
Hein, il a failli être prêtre. Mm-hmm. Il a failli être prêtre, c'était son désir au début, et vous savez grâce à quoi? C'est assez joli comme histoire. Grâce au prêtre de son petit village, qui avait une voix éblouissante. Et c'est cette voix qui l'a...
Les fameuses basses
russes. Qui l'a transportée.
Ça devait être...
Les voix de l'âme, vous savez.
Et ces voix, on les entend quand on se promène encore aujourd'hui dans un certain nombre de temples et de monastères russes. Hein. Il y a cette mélopée tout à fait extraordinaire. Finalement, nous dit via email, nous dit Patrick, finalement Catherine impératrice aurait été heureuse de voir arriver un empereur à la tête de la France. Oui, probablement. En tout cas, elle l'avait quasiment deviné. Et ça, je vous avoue que moi, ça m'épate toujours. Lorsque des prédictions se révèlent très justes comme ça, de la part d'un homme politique ou en l'occurrence d'une femme politique, ça mérite d'être souligné. Merci beaucoup, Constantin Mourouzi, d'être venu nous parler de Catherine II, qui fait l'objet d'une réédition de cette biographie de votre père, Catherine, impératrice de toutes les Russies, aux éditions France Empire, et c'est signé Paul Mourouzi.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck, vous répondrez à la question de Julia sur les rites et les pratiques liées au service du vin.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question de Julia via la page Facebook de Cœur de l'Histoire. Franck, pourriez-vous nous parler des origines du vin comme pratique sociale?
Il y aurait tellement à dire à Julia. C'est les origines du vin comme pratique sociale. Vous imaginez, il faudrait revenir au grand banquet de la Grèce antique, hein, ce qu'on appelait le symposion, avec le symposiarque qui faisait passer le vin de convive en convive, en même temps que la parole d'ailleurs. Tout ça a évolué avec le temps, bien entendu. Vous savez que pendant très longtemps, on a préféré le vin alors au lait, parce que le lait était surtout bu par les personnes soit très jeunes, soit très âgées, il faut bien dire, ou à l'eau, tout simplement parce que l'eau était souvent contaminée, et qu'au moins avec le vin, ou dans d'autres régions avec la bière, on était à peu près sûr de ce qu'on buvait, évidemment. Ce vin, il a été néanmoins coupé d'eau, à l'époque, on va dire, de Louis XIII, Louis XIV. Il est déjà conseillé de le couper. D'ailleurs, les femmes, les enfants boivent plutôt de l'eau à cette époque-là. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le vin circule. Alors, dans un premier temps, il circulait dans des hanaps, dans des gobelets, etc. Et la grande question, c'était la question de l'empoisonnement, vous savez. Donc, on goûtait le vin, bien entendu. Et puis, petit à petit, on a utilisé des verres. Sauf que ces verres, on pouvait pas les poser sur la table parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le service à la française, c'est-à-dire que on se servait soi-même. Donc, on aurait risqué de renverser les verres. Donc, vous aviez des valets derrière qui, sur des petits plateaux, apportaient les verres et constamment les renvoyaient, les remettaient sur des desserts ou dans des rafraîchissoirs. Il faut attendre le service dit à la russe au 19e siècle pour que les verres apparaissent sur les tables. Quant aux bouteilles, ben elles sont tardives, ces bouteilles. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait des bouteilles avec des très longs becs, vous savez, des grands goulots et des fonds plats. La bouteille ne se généralise en Angleterre qu'au début, milieu du 17e siècle, et elle va jouer un rôle essentiel parce qu'à partir du moment où on a des bouteilles et où on a des bouchons en liège, on va pouvoir garder le vin, le faire vieillir. C'est le début de ce qu'on appellera les grands vins qui vont connaître leur efflorescence au 18e et surtout au 19e siècle. Bon, voilà une partie de la réponse. J'aurais pu vous faire une toute autre réponse sur un sujet qui était très vaste et qui méritera peut-être qu'on y revienne. Marion Ruggieri est ici. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Quelle morale enseigner à l'école? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors que l'enseignement moral et physique, c'est le nom de cette nouvelle matière, est censé faire son entrée dans les salles de cours du CP à la terminale cette semaine. Alors que va-t-on y apprendre? Est-ce qu'on va parler des réfugiés par exemple? Qui fait cours? Comment? Pourquoi? Pour qui? On écoutera l'avis des profs, des parents, des enfants et même le vôtre.
Merci beaucoup Marion et nous nous retrouvons demain à Nice.
Avec grand plaisir, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.